la voix de la librairie Québec. Catherine Doré au micro. Bienvenue à nos auditeurs de Radio Fiat Lux et à ceux de CKIA qui nous écoutent en différé le mercredi à 15h30. L'émission d'aujourd'hui sera une émission toute littéraire. Il y aura des lectures de textes et nous parlerons de littérature américaine en compagnie de Roxane et du miracle islandais avec Simon. Enfin, David, notre hôte et libraire, fera une lecture de Hérodote. Alors, on va débuter l'émission avec un auteur américain, Raymond Carver, qui est connu surtout pour ses nouvelles qui décrivent la middle class américaine autour des années 60-70. Et pour se mettre dans l'ambiance de l'époque et du milieu, j'ai choisi une pièce musicale de Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Alors, on est en compagnie de Roxane. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Catherine.
Tu as choisi ce soir de nous parler de Raymond Carver. Pourquoi Raymond Carver?
Par hasard, en quelque sorte. Hein. Comme souvent, j'ai choisi de vous parler d'un livre que j'avais découvert à la librairie, grâce aux bons soins de David. J'ai lu deux recueils là, pour préparer l'émission, Les vitamines du bonheur, qui est paru en anglais sous le titre de Cathedral.
Okay.
C'est une drôle de traduction, n'est-ce pas, quand même? Le titre, déjà, est assez, inspirant. Là. Ça attire la curiosité, pour dire le moins. Et l'autre, sur le conseil de David, également, Les trois roses jaunes. Mais c'est les vitamines du bonheur là, que j'avais trouvées ici à la librairie. Puis je crois que j'avais déjà entendu parler vaguement là, de Carver par le passé, mais je ne sais plus trop pour quelle
dans
raison.
Dans quelles circonstances.
Oui, j'avais envie de découvrir.
Ce sont deux recueils de nouvelles?
Exact.
Raymond Carver a surtout écrit des nouvelles. Est-ce qu'on sait pourquoi?
En fait, il a écrit essentiellement des nouvelles, un peu de poésie. Je connais moins sa poésie, mais il a écrit quand même pas mal de recueils de poésie. Puis il a écrit essentiellement des nouvelles pour une raison assez simple, d'ordre pratique, qui est que il n'y avait pas beaucoup de temps pour écrire, vu la vie qu'il a menée assez difficile. Il disait lui-même aimer le genre de la nouvelle, l'aspect condensé, ça lui plaisait, mais on rappelle souvent là, que c'est un peu les conditions de vie qui ont fait dans son cas qu'il pouvait difficilement s'atteler à un projet de l'ordre du roman, par exemple.
Est-ce qu'on peut commencer par faire un petit peu le tour de ses biographies pour nous faire comprendre quelles étaient ces conditions-là d'écriture?
Oui, c'est des conditions particulières. Hein. On n'a pas tant l'habitude de... dans le milieu de la littérature, là, d'avoir affaire à des auteurs qui proviennent comme ça d'un milieu assez pauvre,
ben
finalement.
Oui, ben oui.
Ils viennent d'un milieu vraiment de la middle class très, très moyenne. Disons, son père était ouvrier dans une usine, sa mère enchaînait les petits boulots de serveuse, de vendeuse et tout ça. Lui-même a passé une vie dans laquelle il a enchaîné lui-même beaucoup de petits boulots jusqu'à un âge assez avancé.
Puis on est vraiment là, on parle au milieu des années 50 parce qu'il est né en 1938.
Exact.
Donc on est rendu à fin 50, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Quand il se marie et...
Oui, c'est ça, il est né en 38, puis il s'est marié à peine 20 ans. Donc,
ouais, c'est ça, 58.
Tout à fait. Puis il a passé sa vie essentiellement sur la côte ouest.
Ah oui.
Il y a des écrivains de la côte est. Tu sais, les États-Unis, c'est grand, hein, quand
oui,
même.
Oui, en effet.
il est né dans l'Oregon. Ensuite, il a grandi dans l'État de Washington. Il a habité aussi un peu en Californie, mais il s'est vraiment baladé, là, essentiellement sur la côte ouest.
Okay.
Donc c'est pas vraiment, tu sais, on est à l'habitude, c'est pas des écrivains un peu branchés de la côte est, de la classe aisée, etc. Là on est vraiment complètement ailleurs. Puis comme je le disais, donc il s'est marié à peine 20 ans, je pense qu'il avait 18 ans même quand il s'est marié, avec sa première épouse là qui avait elle-même quelque chose comme 16 ou 17 ans, tu sais, donc
oui.
c'est quelque chose là.
Ouais.
Puis à 20 ans, il avait déjà deux enfants.
Oui, oui.
Puisque quand il s'est marié, sa femme était déjà enceinte là lors du mariage lui-même. T'sais, donc faut quand même se replacer fin des années 50.
Oui.
C'est pas encore l'Amérique qu'on a entendu en extrait d'émission du début là, c'est pas encore cette Amérique là, enfin c'est l'ancienne Amérique en quelque sorte.
Oui, c'est des valeurs traditionnelles encore.
Oui, c'est ça, sa femme elle-même sortait d'une espèce d'école de jeunes filles comme ça existait à l'époque où ils apprenaient un peu, tu sais, comment bien être une bonne ménagère ou je sais pas quoi.
Donc le modèle c'est on se marie, on a des enfants et on perpétue la race.
Oui, oui, tout à fait. Mais même à l'époque, il y avait quand même, c'est ce que raconte sa première femme dans des entretiens, là, il avait toujours été très attiré par la littérature. Il avait même écrit un peu, peut-être, là, de science-fiction, des choses comme
oui,
ça.
Oui, qu'est-ce qui a pu amener quelqu'un de cette classe-là à s'intéresser à la littérature? Parce que normalement, ça vient de la famille, ça vient de l'éducation. C'est quand même curieux.
Ouais, ben là, c'est difficile à dire. Moi, j'aurais la tendance à penser que c'est vraiment une espèce de destin d'écrivain, là, compte tenu. C'est vraiment une littérature qui se démarque beaucoup. Puis ses professeurs d'université aussi, les premières nouvelles qu'il écrivait quand il a fini par aller à l'université. Par exemple, quand il participait à des concours où il recevait là, des dizaines, voire des centaines de nouvelles pour être publiées, ben, les siennes se démarquaient systématiquement.
Okay. Okay.
Donc, il y a vraiment une voix très particulière là, qui prend le dessus tout de suite.
Ouais. On parlera tout à l'heure de ces termes et de ces caractéristiques d'écriture. Si on continue, la biographie.
Oui, ben, ce qui est intéressant, comme je le disais, donc, à 20 ans, il y a déjà deux enfants, chef de famille, donc il doit travailler, puis enchaîner vraiment tous les boulots possibles et imaginables. Ouvrier, portier, il a été gardien de nuit dans un hôpital, travaillé dans une usine, il déménageait à tous les six mois avec ses deux enfants.
C'est vraiment pas une vie facile, hein?
Non, vraiment pas. Toujours essayé de joindre les deux bouts. Sa femme également travaillait. Puis assez tôt, ils étaient tous les deux d'accord pour dire que c'était important qu'ils poursuivent des études supérieures. C'est elle, beaucoup, qui a incité. Elle-même venait d'un milieu un peu plus aisé.
Okay.
Elle avait quand même fréquenté une bonne école et tout ça. Elle avait toujours eu ce rêve-là de poursuivre au collège et à l'université. Puis c'est ce qu'ils ont fait là, pendant jusqu'à peu près à l'âge de 40 ans quand sa carrière littéraire a commencé à décoller.
Oui, c'est ça,
avant
c'est très
ça,
tard.
Oui, très tard, mais parce que il a pris des cours de création littéraire, il a poursuivi des études, mais en travaillant la nuit parfois. Puis en
il fallait s'accrocher, hein, il fallait vraiment vouloir.
Vraiment beaucoup, puis en même temps, c'est un beau destin parce qu'on voit que sa femme croyait beaucoup en lui aussi. C'était un peu l'espèce de pilier de famille là, qui ramenait l'argent à la maison, qui payait les comptes, qui s'assurait que tout le monde puisse survivre.
Okay.
Une espèce de caractère comme ça, assez impressionnant. Puis qui croyait énormément en lui, puis en son projet littéraire aussi.
Okay.
Donc, c'était l'espèce de sacrifice familial de tous pour essayer d'arriver à produire quelque chose, parce que lui sentait ce désir-là très fort en lui, puis il voulait tout faire pour y arriver, puis toute la famille, en quelque sorte, collaborait à ça, là, par l'acceptation du mode de vie particulier, par les choix aussi, parfois, c'est vraiment un homme sans compromis, qui était toujours prêt à délaisser même des situations, quand ça pouvait commencer à devenir favorable, parfois, si ça contrevenait à son projet littéraire, il laissait tout tomber, puis il partait ailleurs, tu sais, sans se poser de questions, là. Pour lui, c'était vraiment un choix radical, Puis c'est ce qui fait sans doute qu'il est parvenu à ben, amener à terme ce projet-là.
Il est même parvenu à devenir professeur d'université. C'est vraiment, c'est un success story finalement. Ben, un peu à l'américaine, où celui qui part du milieu ouvrier dans des conditions terribles et qui finit professeur d'université, c'est quand même un parcours.
Oui, on pourrait le voir comme l'espèce d'American Dream qui se réalise en quelque sorte, mais à la fois, c'est un homme qui a vécu une vie très dure même à partir du moment où il a commencé à enseigner à l'université. Il y a eu, ben, entre autres, beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Là, c'est des thèmes qu'on voit qui sont assez récurrents dans son œuvre aussi. À partir du début des années 70 à peu près, ce qui correspond au moment où, justement, il a commencé à avoir un peu de reconnaissance. Ben, c'est comme si tout se met un peu à foutre le camp en même temps. Donc, c'est jamais, disons, il l'a jamais vraiment facile malgré tout. Là, ça demeure. Puis après, bon, il y a divorce, etc. Donc, même quand on voit un peu les éléments de sa vie, là, même quand ça se met à être plus facile, il obtient une bourse de l'université, par exemple, donc il peut arrêter de travailler, puis enfin se concentrer sur l'écriture. Ben là, il y a quelque chose qui arrive, puis tu sais, il quitte l'État, il quitte l'université, il quitte la vie facile, puis il va s'installer ailleurs pour une raison X ou Y, puis là, il reprend à zéro, puis c'est encore difficile et tout ça.
Okay.
Donc oui, success story, puis un peu, mais en même temps pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui t'est reconnu comme un écrivain ben, remarquable qu'il était là, à la toute fin de sa vie, avant de mourir du cancer à 50 ans, en 88.
Ah, il est mort jeune, comme ça?
Oui, oui, tout à fait. À un moment où ça, tu sais, il commençait à avoir un peu de reconnaissance.
Il n'a pas eu le temps vraiment de goûter à ce succès, à cette belle vie, là. Parce que s'il a commencé à publier, il avait presque 40 ans.
Ben, exact, ça a duré 10 ans à peu près. Hein, oui. Puis, où il a un peu profité de tout ça. Puis finalement, assez rapidement, là, ça a été les souffrances du cancer et tout ça. Puis dans cette épreuve-là, il a vraiment fait preuve d'un courage et d'une détermination assez remarquable, là, avec un caractère toujours jovial, positif, blagueur.
Vous nous parliez tout à l'heure, Roxane, de son alcoolisme. Il y a des anecdotes d'ailleurs à ce sujet-là. Il disait qu'à l'université, il n'était pas toujours présent.
Ben, il y a des histoires assez rocambolesques, là, du genre il était invité à des lectures. Puis il y a un de ses anciens collègues d'université qui raconte ça, il l'avait invité pour faire une lecture à un endroit où il avait déjà enseigné, mais même quand il enseignait pas la moitié du temps. Il faut se replacer à l'époque, hein, des années 60 aussi, une époque très contestataire, 60-70 dans les universités.
Oui.
Donc il se présentait pas aux cours, mais tout le monde l'adorait, ses élèves le soutenaient, il disait rien jusqu'à temps que l'université découvre ça puis se mette à la porte, là. Ou alors il se présentait complètement bourré, ou alors on l'invitait à des lectures, puis tu sais, il arrivait quelques jours plus tôt, il revoyait ses vieux amis, c'était l'ivresse deux, trois jours d'affilée, tu sais, sans arrêt, se présentait à la lecture. Il n'y avait plus de voix, en fait. C'est arrivé, quelqu'un raconte ça, un de ses anciens collègues, lui, qui se présentait à la lecture, il n'y avait plus du tout de voix. Puis il a lu son texte tout de même, tu sais, en espérant peut-être que le micro fasse un travail. Puis paraît-il qu'on n'entendait rien, mais rien du tout, en fait, pendant toute la lecture qui durait 30 minutes, mais tout le monde a écouté religieusement jusqu'à la fin, puis ils ont applaudi tellement c'était une personnalité adorée de tous, de ses étudiants, de ses collègues et tout ça.
Eh bien.
Donc, il y a une espèce de détermination, de force de caractère, puis beaucoup d'amour malgré l'adversité.
Est-ce qu'il a réussi à surmonter son alcool? Ou il est resté...
Oui, ça dure. Disons que l'alcool est très présent dans son œuvre, était quand même très présente au début de sa vie, c'est ce que raconte sa femme, mais de manière plus conviviale. Elle dit que pendant quand même plusieurs années, ce que raconte sa fille aussi, ça n'a pas nécessairement été un problème, jusqu'au début des années 70, où là, vraiment, il dit que lui-même disait, tu sais, je buvais plus que j'enseignais. Tu sais, il était sous, sans arrêt, il a arrêté d'écrire, ça nuisait à sa famille, ça détruisait sa famille, ça détruisait sa vie, littéralement. Puis il s'en est sorti, paraît-il, avec l'aide des alcooliques anonymes, là. Puis il y a aussi des belles histoires comme ça de rédemption, en quelque sorte, dans ses nouvelles, parce qu'en fait, son œuvre est énormément inspirée de sa propre vie, là. Il retravaille constamment ce matériel biographique-là pour en faire autre chose. Donc, il transcende l'aspect biographique, là, mais quand on connaît un peu sa vie, on voit en filigrane toujours là, les thèmes de sa vie qui se dessinent. C'est toujours des histoires d'hommes, de femmes, de mariages, de divorces que lui-même a vécu finalement.
Puis, est-ce qu'on parle de son œuvre? Je sais que vous nous avez parlé, vous avez préparé, pardon, un extrait pour qu'on puisse avoir une idée du style,
Oui, tout à fait. C'est un style assez particulier qui, à l'époque, on connaissait pas beaucoup. Quand même inspiré d'Hemingway, on sent cette inspiration-là. Style très minimaliste, le Hemingway, ou même qui avait été journaliste avant d'être écrivain, puis qui avait un rapport disons, littérature très réaliste, très peu de descriptions, qu'on va toujours à l'essentiel et tout ça. Puis j'ai appris, en faisant des recherches un peu pour préparer l'émission, là, même que certains, bon, c'est toujours délicat, là, les, quand on veut catégoriser les œuvres puis accoler des noms de style et tout ça, mais il paraît qu'on peut le clarifier dans le, classer dans un style littéraire que je connaissais pas, mais qui s'appelle le Dirty Realism, une espèce de réalisme sale, qu'il décrit assez bien quand même, dans le sens où c'est donc un rapport très réaliste à la littérature,
okay.
Mais comme il met en œuvre, donc il met en scène beaucoup de sa vie, de ce qu'il a vécu et tout ça, ben c'est toujours des scènes, disons, on est vraiment au ras des pâquerettes, on est vraiment dans la description du quotidien de l'Américain moyen qui mange de la purée de pommes de terre avec du jambon et puis une tarte aux pommes pour dessert. En écoutant la télé, on voit à peu près le genre. Là.
Vous allez nous faire un extrait pour qu'on ait une idée exactement de ce que c'est que le Dirty Realism. C'est quelle nouvelle?
C'est la première nouvelle du recueil que j'ai découvert ici grâce à David, là, les vitamines du bonheur.
Oui.
La première nouvelle qui s'appelle Plume, en français du moins, là, les traductions de titres de l'anglais au français, c'est parfois un peu particulier. C'est une histoire assez rocambolesque, l'histoire encore une fois, d'un homme et d'une femme. Je pense qu'on connaît même pas le nom de l'homme, d'ailleurs. Ça arrive assez souvent. On n'a même pas le nom de la personne qui narre l'histoire. Et sa femme, donc, qui vont passer, qui sont invités à souper chez un collègue de travail. Donc, on a vraiment tout le monde a déjà vécu ce genre de soirée. On va chez quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, un collègue de travail qu'on n'a jamais vu dans l'intimité. On n'a jamais rencontré sa femme. On sait pas trop où il habite. Puis, donc, il y a cette soirée qui prend place. L'extrait, ça a lieu à peu près au début. Le début est assez flamboyant parce qu'ils arrivent en voiture, en fait, dans une espèce de petite maison, là, au milieu d'un champ de maïs. Puis, ils sont accueillis par un pan. Parce que le couple en question a une espèce de pan énorme.
Comme animal apprivoisé.
Comme animal de compagnie, oui. C'est déjà assez particulier.
Oui.
Donc, c'est accueilli par le pan. Donc, juste, ça place un peu le
décor.
Le décor, en effet. Donc, là, il s'installe au salon, donc, avec Ola, qui est la femme du collègue qui s'appelle Bud, et la femme du narrateur qui s'appelle Franz.
C'est donc un extrait de Plume de Les vitamines du bonheur. On vous écoute, Roxane.
Asseyez-vous, dit Bud. Fran et moi, on se posa sur le canapé. Je sortis mes cigarettes. Voilà un cendrier, dit Bud. Il prit quelque chose de lourd sur la télé. Tiens, dit-il en le posant devant moi sur la table basse. C'était un cendrier en verre, en forme de cygne. J'allumai ma cigarette, jetai l'allumette dans le dos du cygne et regardai le petit filet de fumée en montée. La télé était allumée, alors on la regarda une minute. Sur l'écran, des stock-cars tournaient à toute allure sur une piste. Le speaker parlait d'une voix grave et sérieuse, mais il avait l'air de se retenir pour ne pas s'exciter. « Nous attendons la confirmation officielle, » dit le speaker. « Tu veux regarder ça ?» demanda Bud, toujours debout. « Je dis que ça m'était égal, et c'était vrai. » Fran haussa les épaules. « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» semblait-elle dire. « De toute façon, la journée est foutue. » « Il reste plus que 20 tours, » dit Bud. Il n'y en a plus pour longtemps. Il y a eu un carambolage soigné tout à l'heure. Une demi-douzaine de bagnoles bousillées. Plusieurs pilotes blessés. On ne nous a toujours pas dit si c'était grave. Alors laisse, on va regarder. Peut-être qu'une de ces putains de bagnoles va nous exploser sous le nez, dit Fran. Ou entrera dans les tribunes et écrasera le mec qui vend ses hot dogs dégueulasses. Les yeux rivés sur l'écran, elle se mit à tripoter une mèche de ses cheveux. Bud la regarda pour voir si elle blaguait. Tout à l'heure, le carambolage, c'était quelque chose. Réaction en chaîne. Des gens, des voitures, des pièces détachées dans tous les sens. « Bon, qu'est-ce que vous buvez? J'ai de la bière, il y a une bouteille de Old Crow. »« Qu'est-ce que tu bois? » demandai-je à Bud. « De la bière. Elle est bonne et bien fraîche. Alors une bière aussi. »« Moi, je prendrais bien un peu d'Old Crow avec un doigt d'eau, » dit Fran. « Dans un grand verre, s'il vous plaît. Avec de la glace. »« Merci, Bud. »« C'est parti, » dit Bud. Il jeta un coup d'œil sur la télé avant de s'en aller vers la cuisine. Fran me poussa du coude et me montra la télé de la tête. « Regarde dessus, » me chuchota-t-elle. Je suivis son regard. Il y avait un petit vase rouge dans lequel on avait fourré des marguerites. À côté du vase, sur le napperon, un moulage de dents, les dents les plus tordues et irrégulières que j'ai jamais vues de ma vie. Il n'y avait pas de lèvres à ce truc affreux. Pas de mâchoire, juste des dents en plâtre plantées dans quelque chose qui ressemblait à d'épaisses gencives jaunâtres. À ce moment-là, Olla revint avec une soucoupe de cacahuètes et une boîte de 7-Up. Elle avait enlevé son tablier. Elle posa la soucoupe sur la table basse à côté du cygne. « Servez-vous, dit-elle. Bot vous apporte à boire. » Sur quoi elle se remit à rougir. Elle s'assit dans un vieux rocking chair en rotin et se mit à se balancer en buvant son 7-Up devant la télé. Bod revint avec un petit plateau sur lequel il y avait le whisky de Fran et ma bouteille de bière. Il y avait aussi une canette pour lui. « Tu veux un verre? » Je secouai la tête. Il me tapota le genou et se tourna vers Fran. Elle prit le verre que Bod lui tendait et dit « Merci. » Puis elle se remit à regarder les dents. Bod suivit son regard. Les voitures vombrissaient sur la piste. Je pris ma bière et me concentrai sur l'écran. Les dents, c'était pas mes oignons. Ça, c'est les dents d'Olla avant qu'on lui mette des appareils, dit Bod à Fran. Moi, je m'y suis fait, mais je suppose que ça doit paraître plutôt bizarre là-haut. Ma tête a coupé que je ne sais pas pourquoi elle les garde. Il regarda Olla, puis il me regarda avec un clin d'œil. Il s'assit dans son fauteuil et croisa les jambes. Il se mit à boire sa bière et regarda Olla. Olla se remit à rougir, sa canette à la main. Elle but une gorgée, puis dit « Je les laisse là pour qu'elle me rappelle tout ce que je dois à Bod. »« Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda Fran. Elle trifouillait dans la soucoupe, cherchant les cajous au milieu des cacahuètes. Fran s'arrêta et regarda Olla. « Je m'excuse, mais je n'ai pas compris. » Fran fixa Olla et attendit ce qu'elle allait dire. Olla rougit une fois de plus. « Il y a des tas de choses dont je lui suis reconnaissante, dit-elle, et ça, ça en est une. Je les garde là pour me rappeler ce que je dois à Bod. »
Merci, Roxane. C'est très cinématographique comme scène. On a vraiment l'impression de voir des images, les objets sont décrits. Et si je ne me trompe pas, il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques de ces nouvelles.
Il y a le Shortcuts,
okay.
Notamment, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais c'est un aspect que je n'ai pas fouillé. Là. Je sais par contre qu'on
voit vraiment des images défiler comme dans une scène. C'est...
Oui, puis ils se concentrent beaucoup sur le détail, hein, le cendrier. Moi, ce que j'aimais bien, c'est entre autres le cendrier en verre en forme de cygne. Je pense qu'il y en avait un chez mes parents. C'est ce genre d'objet, mais le dentier, l'espèce de dentier complètement ignoble sur la télé. Un peu plus tard dans l'histoire, la femme va chercher son enfant avec une espèce de gros, de jeune bambin énorme, vraiment moche. Puis là, le narrateur est complètement déboussolé, dit « cet enfant était tellement moche que je savais pas quoi dire ». Donc la soirée de A à Z, ça va un peu de rebondissement en rebondissement avec toujours ces détails vraiment sordides, là. Ouais, donc d'où ce qualificatif là, de réalisme sale, là, un peu, oui. Qui n'est pas très ragoûtant. Puis à la fois, il y a très peu de descriptions, c'est-à-dire qu'on, comme tu dis, on voit tout.
Oui.
Puis c'est souvent des descriptions qui sont très subjectives aussi, vraiment en se concentrant seulement sur les détails qui sont essentiels à l'histoire puis essentiels aux personnages. Là, on va pas avoir de description de personnage en tant que tel, voire pas de nom de personnage du tout. On va vraiment essentiellement se concentrer sur le détail qui compte pour l'histoire, puis c'est tout, quoi. Donc, d'où le qualificatif de réalisme, puis très minimaliste également.
Et si on s'intéresse aux thématiques qui sont traitées chez Ramon Carver, c'est vraiment le quotidien, c'est la vie, c'est la banalité du quotidien, c'est...
Oui, puis à la fois, c'est souvent... C'est la banalité du quotidien, mais c'est aussi en quelque sorte, l'espèce de petit détail qui fait la différence. Il y a une histoire très, très belle dans le même recueil, qui est l'histoire d'un couple dont l'enfant est frappé par une voiture le jour de son anniversaire. Puis le même jour, la dame commande un gâteau chez le boulanger. Puis là, bon, la voiture repart juste après avoir frappé l'enfant. Les parents sont alertés, ils vont à l'hôpital, l'enfant s'évanouit. On leur dit qu'il va se réveiller, mais finalement, il se réveille jamais. Puis l'enfant finit par mourir. Puis entre-temps, il y a toujours le gâteau qui a été oublié, qui a été commandé pour l'anniversaire. Puis il y a le pâtissier qui rappelle plusieurs fois durant l'histoire histoires à la maison en disant des choses affreuses parce qu'il est vraiment fâché qu'on n'ait pas repris son gâteau. Donc, on est dans le quotidien, dans les petits faits. Puis à la fois, c'est une histoire très prenante d'humanité parce qu'à la toute fin, une fois que l'enfant, donc, ils apprennent qu'il est décédé à l'hôpital, ils sont très fâchés contre le boulanger. Donc, ils vont en pleine nuit l'engueuler littéralement. Ils veulent quasiment lui tordre le cou, là. Puis il les reçoit. Puis lui, il était pas au courant de ce qui s'était passé, évidemment. C'est une mécompréhension de part et d'autre durant tout ce temps. Puis là, donc les parents se vident le cœur, puis les écoutent. Puis là, il est vraiment tout triste de ça. Donc, on découvre l'humanité du personnage. Puis là, il les accueille chez lui. Puis là, il leur offre des petits pains tout chauds. Puis c'est vraiment à pleurer comme histoire parce que il y a l'émotion, disons, de l'événement, qui est à la fois un événement du quotidien puis un événement simple, puis à la fois cette espèce d'humanité très forte qui transparaît dans l'accueil qu'ils reçoivent, puis dans la communication qui se crée dans ce moment-là où finalement ils parlent toute la nuit, puis ça aide en quelque sorte à faire leur deuil, puis à comprendre, le pâtissier reçoit leur tristesse de manière très, très belle, là. Puis toutes les histoires sont construites un peu comme ça. On est dans le quotidien, dans le détail du quotidien, puis à la fois, il y a toujours le petit quelque chose qui transcende ce quotidien-là.
Si on voulait conclure, il nous reste à peu près 30 secondes sur Raymond Carver. Comment on pourrait conclure?
Je dirais que... Parce que c'est vraiment un maître du genre de la nouvelle, qui est déjà un genre, qui est peut-être... qui est moins connu, moins lu. On a l'habitude de se tourner vers le roman. Moi-même, je suis la première à lire davantage de romans que de nouvelles. Puis je dirais que c'est un maître aussi qui maîtrisait le style de la nouvelle, ce genre-là, de manière vraiment flamboyante. Puis à partir duquel, disons, il y a des horizons qui s'ouvrent là pour qui voudrait être inspiré pour rédiger des nouvelles. Il y a à partir de ce matériel-là, on dirait qu'on peut créer à l'infini.
Mais on invite tout le monde être assez curieux pour aller lire les nouvelles de Raymond Carver. Merci beaucoup, Roxane.
Mais merci, Catherine.
On va faire une pause musicale pour entendre les publicités, les indicatifs de Sikaia. Et on vous revient avec Simon et la littérature islandaise.
Allar helgar kindir meiri og minni mögu heimdalar vild að eg val föður vel fyrir telja horns bjalli fyra þau fremstum mann Eð mann jötna ár borna, þá forðum mig fætta höfðu. Nýju mann ég heima, nýju í viði, mjöt við mæran, fyrir mold neðan. Ár var alda, þar rýmir byggði. Vara sandur njösær, njösvalar unnir. Jörð fannst æfa, njö upp. Himinn gap var ginnunga en gras hvergi áður burs sínir bjöðum mjútu þeir miðgarð mæran skópu sólskein sunnan á salar steina Þá var grund gróin grænum lauki. Sólvarp sunnan sinni mána, hendinni hægri himinn jöður. Sól það né vissi hvar hún sali átti, stjörnur það né vissu hvar þær staði áttu, máni það né vissi hvað hann megin sátti. Þá gengur eigin öll á rökstóla, ginn heilög góð og það gættust. Nótt og nýðjum nöfnum gáfu, morgun hétu og miðjan dag, undorn og aftan árum að telja. Hittust æsir á yða velli, þeir er hörg og hof há timbruðu. Abla lögðu, auð smíðuðu, tangir skópu og tólgerðu. Teldu í túni, teitir voru, var þeim vétt ergis vant úr gulli. Uns þrjár komu þursa meyjar, ámáttgar mjög úr jötun heimum. Þá gengur eigin öll á rökstóla, ginn heilug góð og það gættust. Hver skildi dverga dróttir skepja úr brímis blóði og úr bláins leggjum. Þar var mótsognir mæstur orðin, dverga allra endurinn annar. Þeir mannlíkun mörgum gerðu, dvergar úr jörðu sem durin sagði.
Alors, on est de retour avec Simon. Bonjour, Simon.
Allô, Catherine.
On va parler donc de littérature islandaise. Tu nous as choisi une pièce qu'on vient d'entendre, qui est une longue litanie. Qu'est-ce que c'est exactement que cette pièce-là?
Ouais, ben ça, c'est faut vraiment profiter de la chance qu'on a de faire cette émission-là des fois pour vraiment pousser des pièces musicales qu'on n'entendra jamais ailleurs. Donc, ça ici, c'est la Völuspá, c'est un poème édique qui a été écrit aux alentours de l'an 900 en Islande. Et puis, en français, Völuspá, ça voudrait dire le dit de la voyante. Donc, c'est une voyante donc qui voit l'avenir et le passé, et puis qui raconte toute l'histoire du début, des commencements du temps jusqu'à la fin, le fameux Ragnarok, donc le crépuscule des dieux. Donc, c'est un long poème qui raconte toute l'histoire de la mythologie scandinave, la mythologie nordique.
De la naissance de l'univers.
De l'univers jusqu'à la fin des dieux et le retour, le retour à la paix universelle après. Il y a quelque chose d'un peu biblique dans tout ça, évidemment. Tous les grands récits cosmogoniques finissent par se ressembler un peu. C'est un peu inspiré aussi de l'Inde, des Védas, tout ça. Il y a vraiment des ressemblances.
Ah oui?
Okay. Bon, on n'est pas ici pour parler des Védas.
Non, on ne tombera pas là-dedans. Et c'est mis en musique? La musique a été...
Oui, donc c'est en Islande, il y a un phénomène intéressant. Depuis les années 70, il y a un retour un peu au paganisme nordique. Je ne sais pas si c'est en répercussion au changement de la société moderne, mais il y a un pourcentage non négligeable des Islandais qui se réclament du paganisme nordique.
Ah bon?
Il y a un retour, puis la personne qui chante, qu'on entendait chanter, si on peut appeler ça chanter pour nous, c'est un peu difficile, c'est Svein Bjørn Beinteinsson. J'ai aucune idée, je prononce bien son nom.
Je suis admirative.
Donc, c'est un godi qu'on appelle, donc ça vient de god, évidemment, les mots se ressemblent en anglais ou en norrois parfois. Et puis, c'est le grand prêtre qui est un peu le fondateur du retour au paganisme nordique en Islande, qui était officiant de 1972 à 1993.
OK, ça aurait été comme le premier prêtre là, du retour du paganisme.
Oui, c'est un peu celui qui a réussi à monter, en fait, à prouver à l'Islande qu'il y avait un mouvement qui existait réel. Et puis, le Parlement islandais finit par accepter la religion comme étant une des religions officielles en Islande après le luthérianisme.
Mais tu m'apprends quelque chose vraiment de très étonnant.
Oui. Je l'ai appris aussi et j'étais très étonné, mais ouais, ça existe vraiment.
Le paganisme est une religion officielle en Islande?
Oui, c'est accepté. C'est la deuxième religion en importance après le luthérianisme, en fait. Donc, il y a un pourcentage, c'est 1 ou 2 % de la population islandaise qui se réclame de la religion du paganisme scandinave, en fait.
Eh bien, on pourrait quasiment faire une entrevue juste là-dessus, mais on est ici pour parler donc de littérature. Tu as intitulé ta présentation « Le miracle islandais ». Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur ce que c'est que le miracle islandais?
Ben, en gros, pour faire simple, le miracle islandais, c'est que l'Islandais, l'Islande est colonisée par les Vikings. Donc, les Vikings sont vraiment comme la source primaire de la littérature islandaise ancienne. Puis, ils arrivent aux alentours de l'an 930 environ, ils commencent à coloniser vraiment l'Islande. Ils ont découvert un peu avant. En fait, l'Islande a toujours été habitée un peu par... par exemple, des Celtes qui passaient là pour aller pêcher ou tout ça, tu sais. Mais la colonisation vraiment officielle commence avec les Norvégiens, donc les Vikings norvégiens qui vont s'établir en Islande. Et puis, en 930, il y a quand même déjà pas mal de familles qui sont là. C'est super important, j'en reparlerai tout à l'heure dans la mentalité des Islandais de l'époque, la famille. Donc, il y a plusieurs familles qui sont là. Et puis, en 930, ils fondent l'Alting, qui est un des premiers parlements, en fait. C'est une démocratie, mais plutôt on dirait plutôt aujourd'hui une plutocratie. Là. C'est vraiment les gens...
Les propriétaires terriens.
Les propriétaires terriens qui se rassemblent une fois l'an, ou deux fois l'an, aux alentours des solstices, pour régler les grands... C'est plutôt un parlement, disons, législatif. Ils règlent ensemble. Ils font le procès, en fait, des affaires en cours qui sont passées durant l'année.
Okay.
Donc ça, c'est intéressant déjà. Il y a comme vraiment une espèce d'intellectualisme latent chez des paysans qui arrivent sur une île, tu sais, en 900. Donc, ils font un parlement. Ensuite, en l'an 1000 environ, c'est pas mal la transition du paganisme vers le christianisme.
Okay.
Donc, en tant que tel, on pourrait dire que la civilisation islandaise arrive là, parce qu'avant, c'est encore des Vikings, donc des païens qui habitent la terre d'Islande, mais à partir de la christianisation, on peut dire que, l'Islande devient un pays, mais enfin un territoire qui s'appartient en tant que tel, donc qui se détache un peu des Norvégiens et puis du continent européen. Et
sans tomber dans les détails, mais juste pour nous dire rapidement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe, ce sont des gens qui sont venus des terres de l'Europe vers l'Islande pour leur apporter le message divin, là. Comment ça s'est passé, ça?
C'est surtout, en fait, Saint Olaf qui est un personnage vraiment important en Norvège et aussi en Islande. Il a christianisé la Norvège,
okay.
Puis les rois norvégiens qui avaient vraiment comme encore une certaine puissance en Islande, tandis que toutes les familles de nobles avaient d'apparenté en Islande, ils ont un peu forcé la christianisation.
Okay.
Fait intéressant, les Islandais sont pas du tout battus, en fait. En fait, comme la plupart des Vikings, ou même les continentaux, donc les Norvégiens, les Suédois, les Danois, sont pas du tout battus parce que pour eux, être chrétien, ça facilitait l'accès aux ports de la mer du Nord. C'était vraiment des marchands, des pirates et des marchands. Donc, pour eux, être chrétien, c'est juste vraiment plus facile faire de l'argent pour eux.
OK, c'est pragmatique.
Oui, c'est c'est vraiment pragmatique comme type de société, en fait, là.
OK. Donc, j'imagine qu'avec cette évangélisation, il y a un mélange de langues aussi, parce que c'est...
Oui. Donc, c'est ça. Le latin fait son apparition.
Oui.
Il faut lire les textes sacrés chrétiens.
Voilà.
Donc, le latin... Il y a encore du norrois qui se parle en Islande pendant un certain temps encore, parce que, étant donné qu'ils sont... En fait, le norrois se parle encore aujourd'hui, en quelque sorte, en Islande, étant donné qu'ils sont insulaires, donc peu en contact avec les autres langues européennes qui, à ce moment-là, sont en pleine expansion. Tout le monde... Il y a 10 millions de dialectes en Europe en l'an 900, mais en Islande, ils sont très isolés, donc ils conservent un peu leur langue. Mais le latin se joint à ça. Et aussi, justement, ça crée un peu le phénomène du miracle islandais. On y arrive enfin. Donc, la volonté de retranscrire les textes sacrés dans la langue norroise va aussi faire en sorte que les clercs, les personnes intellectuelles qui connaissent l'écriture, donc les réécrire, vont se mettre à produire eux aussi des textes originaux à l'époque. Donc, ils vont se départager un peu de l'ambiance européenne qui fait juste retranscrire les Grecs et retranscrire les ecclésiastiques.
C'est qu'il y a de la traduction, là.
Oui, il y a vraiment... en fait, on pense qu'en Islande, à un certain moment, dans ce coin-là, autour de 1200, mettons, il y a à peu près tous les textes au monde sont à quelque part dans une bibliothèque en Islande. Ces gens-là étaient des fanatiques, des copistes fanatiques, donc ils retranscrivaient tout. Et écrivaient aussi, par le fait même, probablement le soir à la chandelle, après avoir travaillé toute la journée au monastère, des contes et des légendes, des poèmes. Donc, ils ont donné cette littérature-là qui est super, qui est très sophistiquée, en fait, pour l'époque, puis qui est très abondante pour un peuple qui comptait peut-être environ 35 000 personnes à l'époque.
Et là, on parle vraiment d'une littérature en langue islandaise, là.
En ancien norrois.
En ancien norrois.
Oui, voilà. Donc, d'écriture en langue vernaculaire islandaise.
Donc, eux, ils ont commencé à écrire en langue vernaculaire bien avant les Européens, si je comprends bien.
Ben non, il y a quand même, tu sais, le saxon, il y a quand même certaines langues qui ont une littérature à eux aussi, comme par exemple Beowulf, ça serait un peu le pendant continental des sagas islandaises.
OK.
Mais disons qu'il y a vraiment une volonté en Islande, probablement du fin insulaire, qui fait en sorte qu'ils sont hyper fiers d'écrire dans leur langue. Et ils pourraient l'écrire en latin, mais ils décident de l'écrire en langue norroise.
Bien. Et cette littérature norroise, elle se compose de quoi exactement? De poèmes, de romans?
Il y a les poèmes. À cette époque-là, tout le monde écrit des poèmes un peu. C'est comme la longue tradition grecque et même les Sumériens. Gilgamesh était finalement un long poème. Donc, ils écrivent des poèmes. Donc, la poésie skaldique. Les skalds, c'est un peu comme les troubadours ou les bardes. C'est comme des poètes, finalement, de l'époque. Donc, il y a la poésie skaldique qui est super importante, qui se départage beaucoup de la poésie de l'époque dans les autres langues. Et il y a les sagas, les fameuses sagas, donc qui sont vraiment propres aux Islandais. Saga, en fait, ça veut dire conte islandais, en quelque sorte.
Parce on a toujours l'impression que ça veut dire histoire familiale, parce que quand on parle d'une saga, ce qu'on voit, c'est l'histoire d'une famille sur plusieurs générations.
Oui, on s'est approprié le terme, mais un puriste dirait qu'il n'y a pas de saga qui n'est pas islandaise. Donc, la saga est un fait islandais. Et puis, justement, l'Islandais, le continent, lui, qui est plus relié avec le reste de la chrétienté, finit par complètement, les langues se transforment. Ça va donner un jour le suédois et le norvégien qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Mais les Islandais, eux, conservent leur langue. Et puis, finalement, la poésie et la saga devient vraiment l'œuvre islandaise. Donc, c'est ce qui fait en sorte leur particularité, c'est que la poésie qui était pratiquée par tous les Vikings à une certaine époque ne devient qu'un art islandais aux alentours de l'an 1100-1200, dans ce coin-là.
OK. Donc, on a la poésie skaldique, c'est de ce dont on est en train de parler. Puis, je vois ici dans ton extrait, dans ton texte, qu'on peut généralement retracer l'auteur d'un poème.
Ah oui, c'est important. C'est que dans la poésie skaldique, c'est un peu comme une poésie de commande, si on veut. Donc, souvent, c'est un riche qui va demander à un skald de lui écrire un poème. Donc, ou une ode à sa personne.
Okay.
Les égaux étaient toujours aussi grands à l'époque. Donc, le skald va écrire un poème, mais souvent, il va être tellement fier de son œuvre qu'il va attacher son nom à son œuvre. Tandis que les sagas et la poésie des édiques, dont la Voluspa, l'œuvre qu'on a entendue tout à l'heure, vous avez fait partie, eux, sont souvent non retraçables. Donc, on ne connaît pas, en fait, les auteurs
qui ont écrit cette poésie. Ce qui différencie le skald de l'Edda.
Le skaldique, c'est vraiment une poésie de commande, poésie de cour. Tandis que le édique, c'est vraiment une poésie qui est, disons, non traçable et qui n'est pas exclusivement islandaise. La poésie édique a été retranscrite par les Islandais. C'est ce qui a fait qu'on en a une copie aujourd'hui de ces poèmes-là. Mais peut venir d'aussi loin que du 7e siècle, par exemple. Donc, c'est vraiment le vieux fond germanique, la mythologie nordique et germanique, donc Odin, tout ça, qui est retransmis par cette poésie-là, qui est différente aussi par le fait qu'elle n'a pas la même métrique, donc elle n'est pas écrite de la même façon. Les strophes sont divisées différemment, les figures de style employées ne sont pas exactement les mêmes, donc c'est un peu comme, c'est une poésie qui est plus ancienne et qui retransmet un peu plus l'esprit viking, disons, tandis que la poésie skaldique, c'est vraiment un fait islandais après l'époque viking, qui est propre à eux.
Okay.
Je ne sais pas si ça a été clair, là, mais j'ai essayé.
J'aimerais ça qu'on continue à parler exactement de la poésie, plus précisément de la poésie skaldique. Il y a l'élaboration, il y a comme un cheminement, il y a comme un travail dans la manière dont c'est écrit, puis il y a le contenu, c'est comme si c'était deux...
Oui, j'ai retranscrit une citation de Régis Boyer, qui est probablement en fait un des plus grands experts en langue française. C'est pas le seul expert en langue française... des peuples qui ont parlé la langue norroise, donc, et dont les Islandais. Donc, il dit de la poésie skaldique, Son art est d'une confondante virtuosité, à telle enseigne que l'on se sent fondé à affirmer que la poésie occidentale n'a jamais rien conçu de plus savant.
On regrette de ne pas pouvoir parler le norrois ancien.
J'ai essayé un peu de lire dans la langue, mais évidemment, ça me prend une traduction, mais c'est incroyablement sophistiqué comme poésie.
À quoi ça ressemble?
D'un, c'est une des premières poésies à vraiment utiliser la strophe. Donc, il y a vraiment une espèce de volonté d'éditer le texte, de faire des paragraphes, une structure.
OK. Donc, il y a une rythmique aussi.
Oui, il y a vraiment l'allitération, donc l'usage de consonnes puis de voyelles qui se répètent de strophe en strophe est vraiment présente. Ça, c'est vraiment propre au poème germain en général, apparemment. Mais il y a aussi la volonté de jamais nommer les choses par leur nom.
Okay.
Donc, par exemple, ça serait trop facile, en fait. Fait que pour eux, ils diront pas, genre, bateau. T'sais, il y a toujours un bateau dans la poésie de Viking, mais ils diront pas bateau. Ils vont dire, par exemple, le chariot des mers.
Oh, c'est beau.
Donc, on appelle ça un éti, c'est un remplacement d'un mot. Mais okay. Mer, c'est nommer la mer. Donc, on peut aussi dire quelque chose d'autre pour la mer. Donc, on pourrait dire le chariot du sang d'Egir, qui est le dieu de la mer.
Fait que c'est un travail continuel de métaphore.
Donc, c'est ça. Donc, on appelle ça une kenning. C'est l'emboîtement de Eti, en fait, de cette figure de style-là. Donc, ça peut être un truc qui est extrêmement compliqué où, pour trouver un seul mot, par exemple, corbeau, il peut avoir 8 phrases, tu sais. Donc, d'enchaînement de mots. Mais là, le poète...
Qu'il y a des enchaînements de mots qui reviennent, qui deviennent comme approuvés, puis quand on veut dire bateau, on prend cet enchaînement de mots-là?
Oui, exactement. Okay. Donc, je vais en parler tout à l'heure quand on va parler de la poésie édique, mais il existe comme des traités de poésie qui t'enseignent comment utiliser ces mots-là et qui les mettent un peu en... Ça devient un peu un fond commun. On pige dans le champ de Eti, de Kenning pour former son poème. Mais le poète, étant donné qu'il veut que ça ait une espèce de consonance poétique, il faut qu'il fasse du travail pour changer tous ces mots-là. Donc, souvent, la syntaxe n'a aucun rapport. Les mots peuvent venir dans n'importe quel ordre. Donc, ce qui a fait penser à bien des experts que le poème qui était commandé par un comte, un roi, un riche propriétaire terrien, possiblement qui était récité devant lui en son honneur, mais qui ne comprenait pas vraiment ce que le poète récitait.
À ce point-là?
Parce que ça devait être extrêmement ardu pour l'auditeur d'agencer les mots dans sa tête, de les remettre en ordre pour en comprendre le sens, finalement.
OK.
Donc, c'est une poésie qui est d'une sophistication tellement extrême qu'on ne peut pas vraiment même si c'était oral, probablement, à l'époque, est très difficilement compréhensible à l'oral.
Puis est-ce qu'ils ont réussi à conserver plusieurs de ces œuvres-là? Parce qu'on parle des œuvres qui datent, on parle des années 900, 1000.
La poésie skaldique, c'est vraiment plus dans les années 1200, 1300. Ouais. Donc ça a été conservé.
Quelle est la quantité de documents qui restent de cette poésie-là?
Il en reste considérablement, mais évidemment des trucs qui ont été perdus à jamais.
Oui, oui.
Donc je ne pourrais pas dire exactement le nombre de poèmes édiques, mais on en retrouve aussi dans les sagas. Souvent, les sagas islandaises ont permis de conserver certains poèmes parce que le sagamen, l'auteur de la saga, mettait un poème skaldique à l'intérieur de la saga. Souvent, il n'y a pas de guillemets, rien. Là. C'est normal pour eux. Un long poème de 30 pages en plein milieu d'une légende. Qui
okay.
Je pense que tout le monde était comme... Il baignait un peu là-dedans, donc dans cette espèce de culture du poème où c'est sacré la poésie pour eux, mais c'est aussi l'art, un art assez pas commun, évidemment, parce que comme je l'ai dit, c'est trop compliqué pour être commun, mais le monde était familier avec le fait d'entendre des sagas et de la poésie skaldique.
On va faire une petite pause musicale et tant qu'à parler de culture islandaise et scandinave, on va se faire plaisir, on va écouter une pièce que tout le monde connaît. Et qu'on aime toujours réécouter, c'est La chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. C'est tiré de l'opéra L'anneau de Nibelung. Nibelung?
J'ai aucune idée, mais c'est de l'allemand, ça.
On appelle ça communément le Ring.
Ouais.
L'opéra Le Ring. Et c'est un cycle de 4 opéras de Richard Wagner. C'est inspiré de la mythologie germanique et nordique. D'où le lien avec notre sujet de ce soir.
Oui, je vais en parler tout à l'heure après la pièce.
Très bien, on revient tout de suite.
Thank you.
C'était donc un extrait de La Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Et on est de retour avec Simon. Bonjour, Simon.
Bonjour. Encore?
Encore?
Oui.
Et on va parler cette fois-ci de l'autre genre de poétique, de l'Islande, c'est le Edda.
Oui, les Edda, donc la poésie édique. Édique, ça veut juste dire la poésie des Edda.
OK.
Il y a deux Edda, en fait. Souvent, on pense à l'Edda, mais il y en a deux. Donc, il y a l'Edda en prose, qui a été écrite. Celle-là, on sait, c'est la seule, en fait. Ben, en fait, c'est pas vraiment de la poésie. Donc, on sait par qui elle a été écrite. Elle a été écrite par Snorri Sturluson, qui est un Islandais hyper important à l'époque. C'est un des premiers historiens de la culture viking.
OK.
C'est aussi un homme politique super important. Il était récitateur des lois, donc un peu l'espèce de président d'assemblée à l'Alting, au Parlement islandais de l'époque.
On est à quelle époque?
Là, on est aux alentours de 1300. Je pense qu'il meurt en 1330 environ.
Okay.
Donc,
okay.
Puis il a le temps d'écrire beaucoup, beaucoup de choses et s'intéressait beaucoup justement à la perte de cette culture-là, de la poésie skaldique, de la mythologie qui était, tu sais, 250 ans, 300 ans après la christianisation d'Islande. Donc, il voyait que les poètes de l'époque ne se rappelaient plus vraiment pourquoi ils utilisaient certaines périphrases, disons, pour expliquer certaines choses. Fait que,
okay.
Il a décidé de faire un précis de poétique qui s'appelle l'Edda de Snorri ou l'Edda en prose. Donc, Edda, ça veut juste dire poésie, en fait. Là. Donc, l'Edda poétique, c'est un pléonasme. Là. C'est poésie de poétique.
OK, ça se dit pas. Donc, un Edda, c'est de la poésie.
Mais l'Edda en prose, là, c'est vraiment de la prose. Donc, ça se divise en trois parties. Une partie qui est vraiment mythologique, qui est un des seuls restants qu'on connaît de la mythologie nordique, qui est la Gylfaginning,
okay.
La mystification de Gylfi, pour les puristes. Ensuite, il y a le Skaldskaparmal et le Hattatal, qui sont vraiment deux parties au livre. Qui sont le Hattatal, ça veut dire la dénombration des maîtres. Donc, c'est vraiment comme, il fait une phrase, une strophe en chacun des 100 maîtres qui peuvent être utilisés par le Skald à l'époque. Donc, il montre un peu comment on peut s'amuser avec la forme. Et puis, le Skaldskaparmal, c'est aussi, en fait, c'est l'enseignement. Il enseigne aux Skald comment utiliser les Eti et les Kenning dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, okay. Comment.
Mais c'est comme des œuvres pédagogiques,
là. Oui, c'est une œuvre pédagogique à l'intention des poètes islandais de l'époque. Donc, ça, c'est. Mais en même temps, c'est un des seuls restants qu'on connaît en écrit par un Islandais de la mythologie nordique.
Okay.
Donc, c'est super précieux pour les mythologues de ce monde. Et puis, les deux poétiques. Pour finir. Donc,
oui, mais c'est pas un pléonasme, mais d'a poétique.
Oui, c'est un pléonasme. Donc, l'Edda poétique, comme on l'appelle, ça, c'est un compendium de tous les grands textes, les poèmes qui ont été accumulés et copiés par les Islandais, donc qui ont été mis sous forme de livres, si on peut dire. Et puis, ben, l'Edda poétique, c'est vraiment comme. C'est la mythologie nordique sous forme de poèmes, mais c'est aussi. Il y a des poèmes autant magiques, chamaniques, éthiques. Et le grand cycle héroïque de Sigurd, donc Siegfried, donc qui a inspiré Wagner pour composer.
Et le lien oui, qu'on fait avec la musique qu'on a entendue tout à l'heure. Pour terminer, est-ce que toute cette richesse poétique-là est accessible en anglais, en français, en une langue qu'on est capable de...
En anglais, c'est facile relativement parce qu'il y a quand même...
Ça doit être tout un travail de traduire ça, là.
Beaucoup de traductions en suédois, en norvégien, évidemment, mais okay. en anglais, en allemand. En français, c'est super difficile à trouver.
Okay.
Régis Boyer, que j'ai nommé tout à l'heure, oui. Est possiblement un des seuls à avoir fait des traductions de la plupart de ces livres-là. Donc, autant les sagas que... les deux poétiques que plein tous les livres en fait.
Donc ça se trouve en français.
Oui, ça se trouve, mais c'est faut être prêt à payer le prix et c'est difficile à trouver dans les librairies usagées souvent.
Puis est-ce que ça vaut quand même la peine? Est-ce que c'est des traductions qui rendent compte un peu de la
Ben évidemment la poésie skaldique.
David dit oui derrière, alors on va le croire.
la poésie. C'est sûr que c'est dur de retranscrire un truc aussi complexe que la poésie skaldique, mais en même temps, les versions critiques de ces œuvres-là sont souvent super intéressantes, en tout cas pour moi, qui suis un fervent du truc, mais sont super intéressantes juste pour aussi mettre dans le contexte historique des gens qui l'ont écrit.
Oui.
Donc, évidemment, bon, on sent pas vraiment, on sent moins la poésie, mais souvent quand c'est bien fait, il y a quand même une volonté, en tout cas, de rendre un peu l'essence
l'esprit,
du texte.
L'esprit, oui. Ouais, voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir.
On va faire une pause musicale. On va revenir avec David qui va nous lire un extrait de Hérodote, l'histoire du roi Candaule. Et pour nous mettre dans l'ambiance d'écouter une lecture, on va écouter une pièce de Eric Satie, Les Gnossiennes.
Alors, je vais vous raconter l'histoire de Candaule tirée d'Hérodote, de ses histoires à Hérodote. Alors, voilà, ça va comme suit. Candaule était tellement épris de sa femme qu'il croyait que nul autre au monde ne l'égalait en beauté. Plein de cette pensée, il ne manquait pas de vanter les charmes de sa femme à l'un de ses gardes, Gygès, fils de Dacile, qu'il chérissait tendrement et qu'il consultait sur les affaires les plus importantes. Bientôt, car le destin voulait qu'il arrivât mal à Candaule, il tint à Gygès ce langage. « Gygès, il me semble que tu n'ajoutes pas foi à ce que je te dis de la beauté de la reine. Au reste, l'oreille est plus difficile à convaincre que les yeux. Fais donc en sorte de la voir nue. » Gygès, à ces mots, de se récrier vivement et de dire « Maître, quelle parole insensée t'échappe ? Quoi ? Tu m'ordonnes de voir ma reine nue ?» En ôtant ses vêtements, la femme se dépouille aussi de sa réserve. Entre les sages préceptes formulés jadis par des hommes capables d'instruire les autres, se trouve celui-ci, que chacun regarde ce qui lui appartient. Pour moi, je suis convaincu que de toutes les femmes que que de toutes les femmes, pardon, tu possèdes la plus belle, et je te conjure de ne me rien demander d'inconvenant. » Il résistait en ces termes, craignant que d'une telle action, il ne lui ait advint malheur. Mais le roi reprit : « Rassure-toi, Gigès, et ne crains rien ni de moi, comme si ce que je te propose avait pour but de t'éprouver, ni de ma femme, qui ne pourra te faire aucun mal. Car je disposerai d'abord les choses si bien qu'elle ne se doutera jamais que tu l'aies vue. Je te placerai derrière la porte ouverte de la chambre où nous couchons. Lorsque j'y serai entré, ma femme, à son tour, viendra se mettre au lit. Or, il y a, non loin de la porte, un siège sur lequel elle déposera ses vêtements. À mesure qu'elle les ôtera, et tu auras donc l'occasion de la contempler à loisir. » Puis, tandis qu'elle se dirigera vers notre couche, comme tu te trouveras derrière elle, fais en sorte qu'elle ne te voie pas sortir de la chambre. » Gigès, ne pouvant se tirer d'affaire, se tint prêt. Kando, l'heure du repos venue, l'introduisit dans l'appartement. Presque aussitôt, la reine entra. Gigès la contempla pendant qu'elle déposait ses vêtements. Puis, tandis qu'elle lui tournait le dos et se dirigeait vers le lit, elle s'esquiva et se glissa dehors. Mais elle l'aperçut au moment où il sortait. Elle comprit ce que son mari avait fait, mais elle dévora l'outrage en silence et feignit de ne rien savoir, résolue en son âme à se venger de Candaule. Car chez les Lydiens et chez presque tous les barbares, on tient à grande honte, même pour un homme, d'avoir été vu nu. Ainsi, sans rien laisser voir pour le moment, elle garda son sang-froid. Mais dès que le jour eut paru, elle appela près d'elle les serviteurs qu'elle savait les plus fidèles et ensuite fit venir Gigès. Celui-ci, ne soupçonnant pas qu'elle sût rien de ce qui s'était passé, se rendit à son appel, car dès longtemps, il avait coutume d'accourir lorsque la reine le mandait. Aussitôt qu'il fut arrivé, la reine lui dit : « Maintenant, Gigès, de deux chemins ouverts devant toi, je te donne à choisir celui que tu voudras suivre. Tue Candaule et possède le royaume de Lydie et moi, ou résigne-toi à mourir à l'instant même, afin que tu ne voies plus, par complaisance pour Candaule, ce que tu ne dois point voir. » Oui, sans doute, il faut que celui-là périsse qui a conçu un tel dessein, ou toi qui m'as vu nu au mépris de toutes les convenances. » À ce discours, Gigès, d'abord frappé, fut frappé de stupeur. Puis il supplia la reine de ne le point forcer, par la violence, à faire un pareil choix. Il ne put la fléchir. Il vit imminente la nécessité de tuer son maître ou de périr par la main d'autrui. Il se décida donc à vivre et il fit cette question : « Puisque tu me contrains malgré ma volonté à faire périr mon maître, parle, apprends-moi comment tu entends que nous portions les mains sur lui. » « C'est, répondit-elle, de l'endroit même où il m'a montré nu que tu dois marcher contre lui. Le coup sera porté pendant son sommeil. » Selon le dessein qu'ils avaient concerté, à la nuit, car elle n'avait point permis à Gigès de s'éloigner, il lui était impossible de s'échapper et Candaule ou lui devait périr. Il suivit donc la reine dans la chambre nuptiale. Elle l'arma d'un poignard et le cacha derrière la même porte. Ensuite, lorsque Candaule fut endormi, Gigès s'élança, le tua et prit possession de sa femme et de son royaume. De quoi Archiloque de Paros, qui vivait en ces temps-là, fit mention en des iambes trimètres. Gigès fut donc roi, et son pouvoir fut confirmé par l'oracle de Delphes. Car comme un grand nombre de Lydiens, révoltés du meurtre de Candaule, avaient couru aux armes, le parti de Gigès et le reste du peuple convinrent que, si l'oracle le reconnaissait roi de Lydie, il régnerait, que, dans le cas contraire, il remettrait le trône aux Héraclides. L'oracle se prononça pour lui, et ainsi Gigès régna. Toutefois, la Pythie annonça, en même temps que les Héraclides, serait vengée sur le cinquième descendant de Gigès. Mais ni les Lydiens ni le roi ne tinrent compte de cette prophétie jusqu'au moment où l'événement la vérifia. Alors voilà, ça vous tente de lire la suite, Hérodote, histoire, en deux volumes. Voilà.
Alors, c'était évidemment Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis. Il me reste un petit peu de temps, alors j'ai décidé, je me permets de commenter une certaine actualité politique canadienne. J'ai trouvé un texte dans la revue Liberté de Mathieu Arsenault sur la manière dont on a fait des coupures dans la recherche scientifique au Canada. Je note en passant que dans le Devoir de mercredi dernier, le 29 mai, le Comité permanent de pêche et océans a rejeté mercredi une motion du NPD qui aurait forcé à expliquer la base scientifique qui justifie l'autorisation accordée à TransCanada pour mener des travaux de forage en milieu marin à Kakuna. Et donc ça a été refusé par le gouvernement conservateur. En 2013, 25% des professionnels scientifiques des services publics canadiens ont directement été victimes d'ingérences politiques et ont été forcés d'exclure ou de modifier des résultats d'études. On sait aussi que durant toute l'année 2013, on a fait fermer des dizaines de bibliothèques publiques scientifiques canadiennes chez Pêche et Océans Canada, à Environnement Canada, mais aussi à Santé Canada. On a appris en 2012 dans le Ottawa Citizen que des données aussi triviales que celles des quantités de neige étaient maintenant pratiquement inaccessibles à cause d'une bureaucratie paranoïaque devant relayer chaque demande individuelle à un bureau ministériel. Je lis le texte final dans la revue Liberté. Cette purge des données est bien motivée par le transfert de pouvoir de l'État vers l'entreprise privée. John McDougall, le président du Conseil national de recherche Canada, l'a exprimé lorsqu'il déclarait en juin 2013 que les nouvelles idées ou les découvertes sont sans intérêt si elles ne connaissent pas d'application commerciale ou sociétale. Ce qui revient à dire que la science au Canada devrait se résumer à partir de maintenant à l'ingénierie et non plus se concentrer sur la recherche fondamentale. La stratégie est en droite ligne avec l'idée d'ignorer les données du présent. Puisque l'ingénierie ne découvre rien, elle développe à partir du savoir existant. Or, l'industrie a toujours été fondée sur l'ingénierie et jamais sur la recherche fondamentale, qu'elle ne peut considérer que d'une manière somptuaire, comme une production inutile. Même si les données du présent possèdent une valeur potentielle pour l'industrie, elles recèlent aussi une part menaçante, étrangère, irréductible à tout modèle économique ou politique, et c'est peut-être ce qui fait peur aux conservateurs. Les données du présent pointent vers le devenir du monde. Elles confirment souvent les modèles existants, mais peuvent aussi indiquer des incohérences susceptibles d'entraîner la rupture de ces modèles. L'État, lorsqu'il n'est pas au seul service de l'entreprise privée et de la prospérité, est responsable devant les données du présent. C'est à lui que revient la gestion des problèmes de santé publique, d'environnement, de population. Or, le Parti conservateur du Canada a refoulé cette responsabilité jusqu'à sombrer dans une paranoïa typiquement conservatrice qui l'amène à systématiquement nier le présent. À croire, à la suite de Francis Fukuyama, que l'histoire est effectivement terminée. En tout cas, que les conservateurs se débrouillent pour qu'il en soit ainsi et que le transfert du pouvoir de l'État vers l'entreprise privée puisse suivre son cours sans imprévu. On pourrait croire que le Parti conservateur du Canada est hégélien, car son rapport à la science et au savoir est lié à la conviction profonde que nous sommes arrivés au savoir absolu et qu'il ne reste plus, aussi bien aux divers ministères s'occupant de science qu'au conseil de recherche, qu'à travailler conjointement avec l'industrie pour un développement optimal des possibilités d'exploiter nos ressources et de tirer le meilleur rendement possible de la population active. Le Parti conservateur du Canada est hégélien. Comme tous ces bêtes hégéliens du 19e siècle qui croyaient que l'histoire se terminait avec Hegel. Mais il suffit de se plonger dans l'encyclopédie de Hegel pour voir la manière dont son travail de philosophe ne se faisait qu'à partir des données du présent, d'un présent en mouvement, qu'il peinait à assembler, à agencer pour en faire la manifestation de ce qu'il appelait l'esprit absolu. Il y a chez Hegel un bricolage plutôt qu'un triomphe. Un bricolage inouï, fascinant, mais qui n'a pu se faire qu'en dialogue avec tout ce que son époque produisait en fait de savoir et de données. Le Parti conservateur du Canada, dans sa paranoïa de la fin de l'histoire, croit être arrivé à l'esprit absolu. Mais il n'atteint que la bêtise. Et c'est au nom de cette bêtise qu'il censure les plus grands esprits de ce pays, qu'il a jeté et qu'il jette encore par conteneurs des centaines de tonnes de rapports contenant les données du présent, et qu'il confond recherche fondamentale et ingénierie. Croyant le Canada arrivé au pinacle du savoir, le Parti conservateur est en train de le figer dans le passé, dans un instantané de l'état des connaissances qui date d'il y a quelques années et dont il n'y aura bientôt plus rien à tirer, économiquement, socialement, environnementalement. Et tous les Canadiens en paieront alors le prix. Il nous reste peut-être un 5 minutes. J'aimerais que Simon se joigne à moi. Simon est astrophysicien et il fonctionne avec des subventions de recherche. Il y a plusieurs de ses collègues qui ont eu, il me semble, des coupures. Et j'aimerais ça que tu réagisses au texte que je viens de lire, Simon.
Effectivement, c'est navrant. Moi, j'ai pas été touché directement encore par ça, parce que bon. La physique, c'est apparemment payant pour le gouvernement canadien, en tout cas plus que Pêche et Océan Canada. Mais il y a effectivement beaucoup, beaucoup de monde, même dans des sciences qui sont dites payantes, qui sont coupées présentement parce que les budgets de recherche sont coupés. Le CRSNG, en fait, qui est comme l'organisme qui chapeaute les subventions puis le financement de la science au Canada, coupe partout et pas juste dans les trucs qui sont directement liés à l'environnement ou à des données qui pourraient être fâcheuses pour le gouvernement canadien au niveau pétrolier ou peu importe, là, mais il coupe à peu près dans tout présentement. Mais je pense qu'il faut départager deux choses. Il y a vraiment cette volonté-là qui est du protectorat de l'économie canadienne, disons, de ce qui se passe présentement au niveau pétrolier, tout ça. Donc, on veut pas trop savoir.
Ce qui pourrait moins être nocif sait pour les sables bitumineux.
Ouais, voilà, moins on en sait sur les trucs négatifs reliés à la production pétrolière canadienne, mieux c'est pour eux, en fait. Mais il y a aussi vraiment un truc qui est beaucoup plus idéologique qu'économique, qui est vraiment la volonté de cette espèce de bon vieux pragmatisme conservateur, donc qui dit que la science fondamentale ou la science plus abstraite, en fait, est vraiment comme une perte de temps.
Oui.
Et ça, c'est le truc économique, on le voit dans tous les pays de l'Occident ou à peu près. Mais le truc idéologique, lui, il est vraiment... En tout cas, il m'apparaît comme étant un fait... Le Canada s'isole, en fait, beaucoup présentement du point de vue international auprès des chercheurs. Par exemple, en astrophysique, c'est presque rendu négatif de dire qu'on travaille au Canada parce que on est comme vraiment mal vu auprès des autres. Pas encore totalement, mais il commence à avoir une espèce de...
J'imagine que le milieu scientifique, c'est un milieu qui est assez petit à l'échelle de la planète et que les gens doivent se connaître un peu, ils doivent connaître un peu ce qui se passe.
Oui, c'est ça. C'est une communauté qui Internet, ça a été créé par... par exemple, par les astrophysiciens. Donc, Internet, ça vient justement d'un besoin scientifique de communiquer nos résultats de recherche à travers le monde. Donc,
ça, c'est une application d'ingénierie pratique très intéressante.
Oui, et voilà.
C'est pas toujours le cas.
Oui, c'est ça. La science fondamentale a créé des choses qui... Ça, c'est vraiment un manque de vision, en fait, là, de se dire que si c'est pas un ingénieur qui le fait, ben probablement que ça servira pas à personne. T'sais. Mais les ingénieurs, là-dedans, ils se battent pour avoir les mêmes budgets que les scientifiques, au final. Donc, pour eux, c'est un peu dur de défendre. Il y a du monde qui le font, évidemment, mais il y a d'autres ingénieurs qui voient ça comme « je peux pas défendre la science fondamentale parce que c'est moi qui vais perdre de l'argent sur mes budgets ». Donc, malgré eux, ils peuvent juste pas trop parler.
T'sais. Oui. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a de la censure, qu'il y a des scientifiques qui n'osent plus exprimer ce qu'ils pensent? Ou...
Ben ça, je connais pas de visu, moi, parce que, bon, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est parmi les chanceux un peu en sciences plus, disons, physico-mathématiques. Là, on est un peu moins touchés, mais... d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu ou si vous l'avez vu, auditeur à la maison, mais il y a une émission super importante à regarder de Découverte.
Tu fais bien de le noter, oui.
Qui est une émission spéciale là-dessus qui est passée au milieu de l'hiver. Et puis, il y a des trucs là, vraiment là, où ils sont carrément censurés. Là. Ils peuvent pas juste publier leurs résultats. Donc, ça commence à être... Ça fait régime fascisant un peu.
Oui.
C'est un peu troublant, en fait.
Toi, comme scientifique, est-ce que tu es inquiet?
De plus en plus, ça, c'est sûr. Là, comme nous, on tu sais, moi, mon salaire vient d'une bourse donnée à mon prof. Fait que, tu sais, si mon prof, un jour, reçoit plus de salaire, ben, il travaillerait
t'es
pas
coupé
pour...
automatiquement. Ben
oui,
ouais.
on est tous coupés, là. C'est une pyramide qui déboule, à un moment donné. Fait que, bon, il y a du lobby qui se fait présentement, mais là, les scientifiques commencent à se réveiller. C'est à peu près le temps, là. Évidemment, bon, les organismes qui ont été plus touchés, eux, sont réveillés avant les autres, là, par procuration. Mais là, ils commencent à voir, là, ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, on voit un mouvement un peu plus...
Une certaine mobilisation, oui, parce que c'est moi, ça m'étonne beaucoup qu'on entende si peu parler de ça, parce que c'est grave.
Oui, mais ça, je pense que c'est un problème culturel des scientifiques, c'est qu'on est tellement habitué de rester dans notre coin que c'est dur à lever. Il y a l'inertie beaucoup dans le milieu, pour employer un mot scientifique d'ailleurs, dans le milieu scientifique. Donc, il y a eu une grève, là, ben pas une grève, mais une manifestation des hommes en sarrau à Ottawa il y a un an.
Oui, à peu près, oui. Oui, au moment où ça a commencé, là, ces coupures-là. Oui,
ouais. Mais je pense qu'on va en avoir plus. Là, parce que jusqu'à maintenant, il y a des dénonciations qui se font, mais surtout par les grands lobbies scientifiques, les regroupements scientifiques parlent évidemment avec... les ministères concernés, mais là, je pense qu'il va y avoir une mobilisation plus venant de la base. En ce que je l'espère, s'il n'y en a pas, c'est troublant encore plus, mais on commence à voir ça un peu apparaître, là, l'espèce de sortons des lobbies et des bureaux à clos et
allons dans la rue.
Un peu plus, en fait, j'espère.
Ben, merci beaucoup, Simon. Merci d'avoir accepté de faire un témoignage sur ce sujet-là. On va conclure là-dessus. Je remercie toute mon équipe, à Gab Paquette pour la musique thème de l'émission, à David, notre libraire et notre hôte à sa librairie de la rue Saint-Jean, à mes invités, Roxane Guévin, Simon Richard, et je voudrais dire un gros merci à Anaël Beauchemin qui assure la mise en onde depuis 2 ans et demi et qui nous quitte pour la grande ville de Montréal. On lui souhaite bonne chance dans la métropole. Bonne chance, Anaël. Et bien sûr, merci à Big Nick, le producteur de l'émission et grand manitou du site web Radio Fiat Lux. C'était La Voix de la librairie, Québec.